J'ai marché l'autre jour à travers Saint-Quentin en Yvelines, au milieu des sièges sociaux, à 3 ou 4 étages d'un parc d'activités. Les haies qui séparaient ces bâtiments étaient épaisses et les rues portaient les noms prometteurs d'Ampère, de Laplace, de Niepce et de Newton. Mais bizarrement, j'ai pensé à Sautet et au personnage de petit industriel en faillite qu'incarnait Montand dans Vincent, François, Paul et les autres en 1974. 1974, c'était à peu près l'âge, si j'en croyais l'ancienneté des vitrages et la grandeur des arbres, de mon parc d'activités. Montand était en prise en ces années de rupture marqué par le choc pétrolier, à un risque imminent de faillite, et la véritable intrigue du film était là. Ce symbole de virilité à l'ancienne, à la fois taiseuse et enjouée, était soudain obligé de demander de l'argent à ses amis pour sauver son atelier d'usinage. Sautet, je l'avais lu dans une interview, avait pensé à l'usinage après avoir découvert dans les pages jaunes la surreprésentation de cette activité dans le tissu industriel de la banlieue parisienne. On ne sait jamais ce que son usine fabrique, sinon qu'il doit absolument investir dans une nouvelle machine au découpe plus précis que celle de la génération précédente. Son drame personnel était ainsi l'annonce discrète de toutes les tragédies industrielles à venir. Mais le paysage dans lequel j'évoluais l'autre jour, dans Saint-Quentin en Yvelines, avait plutôt bien résisté à tous les stress tests qui avaient suivi cette première alerte. L'arrivée des multinationales, avec le siège français de Mercedes et celui du fabricant de lentilles allemand Rodenstock, la tertiarisation avec le siège régional de la Banque Populaire et du Crédit Agricole, l'irruption d'Internet avec la start-up de commerce en ligne Altrix. Je suis anormalement sensible à ce genre de paysage. La chose remonte sans doute à une étude de cas d'un cours de technologie au collège sur notre environnement industriel immédiat et à la découverte des pépites technologiques cachées dans notre environnement pavillonnaire, comme ces deux immeubles en briques du spécialiste danois de la vibroacoustique Bruel et Gjaer, tout près de mon école primaire, à quelques mètres du petit bois où j'allais enfant ramasser des silex taillés et adolescent fumer des pétards. Il ne me fallait pas moins de dextérité manuelle pour réussir à les rouler avec mes doigts gelés qu'il n'avait dû en falloir à mes prédécesseurs pour tailler ces pointes en flèche. Savoir que j'avais retrouvé ces techniques oubliées de la main à quelques mètres des salles blanches du spécialiste danois du silence donne à ces aventures de jeunesse un cachet kubrickien qui me ravit. Il y avait également, un peu plus loin sur le chemin du collège, une entreprise d'électronique aujourd'hui disparue, aux acides malodorants et au site aujourd'hui en pleine dépollution. Il y avait également près de la gare une grande papeterie qui recyclait d'impressionnants cubes de déchets compactés. Il y avait enfin, un peu plus au sud, entre Saint-Vrain, Balancourt et Vers-le-Petit, près des Cressonnières où nous étions allés pique-niquer à vélo avec l'école à la fin du CM2, presque à la fin de l'enfance, une installation nucléaire secrète dont je n'ai jamais connu que les grandes clôtures en tuiles intrusion et les photos floutées dans Google Maps, l'usine du Bouchet. C'est ici, m'a appris Wikipédia, qu'on a raffiné l'uranium de la pile Zoé, le premier réacteur nucléaire français dans le fort de Châtillon. Ici aussi qu'on a retraité son combustible irradié pour extraire les premiers grammes de plutonium nécessaires à la fabrication de la bombe. Je n'avais pas d'amis dont les parents étaient militaires ou physiciens. Je me souviens tout au plus dans le cabinet de notre médecin de famille d'une pièce de métal usinée aux ailettes compliquées qui s'était avérée être, quand j'avais posé la question, un morceau du tube par lequel on alimentait les réacteurs nucléaires en combustible. À un ami de ma tante, une sorte d'affairiste qui vendait à peu près tout et à qui mes parents avaient acheté du carrelage qui s'avéra à l'observation être exactement le même que celui de la nouvelle salle de spectacle. Le municipal avait aussi récupéré, c'était après la guerre du Golfe, des lunettes de vision nocturne. Le secret défense, ténu, était néanmoins dans l'air et tenait mystérieusement éveillé ma ville pavillonnaire. L'une des rues qui menait à mon école s'appelait justement la rue des Acacias. Acacia, comme le nom du programme secret de fabrication d'armes chimiques, peut-être du sarin, qu'aurait conduit l'armée française entre 1986 et 1989 dans l'usine du Bouchet, à 5 km de mon école.